En février 2018, Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, a annoncé la sélection de 32 quartiers de reconquête républicaine, parmi lesquels le quartier de Maurepas à Rennes. Cela signifie qu'il bénéficiera d'une police de sécurité du quotidien. Nathalie Appéré, maire de Rennes, ainsi que Laurence Maillard-Meyagnuri, députée de la circonscription, se sont réjouis de la mise en place de ce dispositif. Mais que va réellement être cette police de sécurité du quotidien ? Qu'est-ce que le choix des termes « quartier de reconquête républicaine » reflète-t-il ? Pourquoi Maurepas est le quartier breton sélectionné ?
Avoir une référence qui peut parler à beaucoup d'entre nous, l'idée de la police de sécurité du quotidien qui a été au cœur du programme de la reconquête républicaine des quartiers notamment, mais pas seulement, du président de la République, c'est bien de revenir à l'esprit des gardiens de la paix, de ceux qui sont en capacité aussi de faire des maraudes, donc une présence territorialisée, inscrite, identifiée sur les territoires, les quartiers de reconquête républicaine. Je suis Laurence Maillard-Meyagnuri, députée La République En Marche de la 2e circonscription d'Ille-et-Vilaine, donc les quartiers, le quartier et les quartiers nord-est de Rennes, et je suis vice-présidente de la commission développement durable à l'Assemblée nationale. En clair, ça veut dire qu'il y aura des effectifs en plus de police pour être au contact des habitants. Et être au contact des habitants, c'est à la fois de la prévention renforcée, donc le contact, ça veut dire aussi en proximité des habitants reconnus. Des effectifs supplémentaires, ça veut dire dédiés en grande partie et prioritairement dédiés au quartier, au contact des habitants, des commerçants, pour rétablir le lien de confiance avec les habitants, renouer le dialogue avec des méthodes de police qui seront plutôt dans le préventif que l'intervention ou les procédures. Voilà. Donc c'est important à la fois parce que c'est un besoin exprimé par les habitants de pouvoir à la fois un besoin de sécurité renouvelé, retrouvé. Ils exprimaient ce sentiment d'insécurité depuis longtemps. Un sentiment d'insécurité, est-ce qu'il est réel ou pas ? En tout cas, c'est quelque chose qu'il faut absolument prendre en compte. C'est très important, c'est une des premières libertés.
En ce jour de février 2003, Nicolas Sarkozy, nouveau ministre de l'Intérieur, inflige une leçon au chef de la police toulousaine.
Combien de la police ? L'investigation. L'interpellation, la lutte contre la délinquance. Organiser un match de rugby pour les jeunes du quartier, c'est bien. Mais c'est pas la mission première de la police.
Depuis, la police de proximité, initiée par la gauche en 1998, a disparu et le commissaire toulousain a été nommé président de la Fédération sportive de la police. Pourtant, aujourd'hui, la police de proximité revient dans le débat. Mieux, tous les candidats semblent d'accord, c'est juste une question de vocabulaire.
En ce qui concerne les termes, il faut peut-être revenir un peu sur l'histoire de la police de proximité. Hein, vous êtes sous le gouvernement Jospin. Et clairement, il y avait une volonté, prenant appui sur des modèles soit anglo-saxons, soit scandinaves, de créer effectivement une police avec des fonctions de prévention finalement.
Pour tenter de comprendre cette mesure, nous avons aussi rencontré Sébastien Segas, maître de conférence à l'Université de Rennes 2. Il axe notamment ses recherches sur la sociologie de l'action publique locale.
C'est-à-dire que non seulement, alors ça a été caricaturé sur le côté les policiers qui jouent au foot, etc. On reviendra là-dessus d'ailleurs. Mais il y avait une volonté effectivement d'être non seulement dans de l'animation, mais surtout dans la prévention, c'est-à-dire de la présence, une police de présence. Mais c'est être là pour dissuader, faire des rondes, un peu comme les bobbies anglo-saxons, enfin anglais. Être là également éventuellement pour avoir des indicateurs et pour créer une relation de confiance. On retrouve ce qu'on appelle la police communautaire aux États-Unis, etc. C'est une police qui est présente. La proximité, c'est pas forcément être copain, c'est être là et être dans la prévention. Et pas simplement dans la répression. C'est-à-dire qu'on peut poser de manière caricaturale la logique BAC, intervention quand il y a un problème, et puis une logique qui est plus, effectivement, une logique de présence qui a des avantages de coûter cher.
Nous sommes également allés à la rencontre de Christian Lebart, professeur des universités en sciences politiques. Il s'intéresse particulièrement à la communication politique.
Police de proximité, ça renvoyait donc dans les années 90-2000, hein, jusqu'à Nicolas Sarkozy, ça renvoyait un imaginaire qui était donc l'imaginaire du proche, donc un imaginaire positif, sympathique, empathique, on va dire, hein, autour de l'idée que si on est proche des gens, on peut les accompagner, peut-être les surveiller. Et en tout cas, on s'inscrivait dans un imaginaire qui était clairement celui de l'État-providence, c'est-à-dire voilà, de gestion des populations avec un peu la carotte et le bâton, mais la carotte aussi, quoi. Alors, parler de reconquête républicaine, c'est basculer dans un autre imaginaire politique. Hein, reconquête, c'est la Reconquista en Espagne, hein, c'est bouter les musulmans et les arabes en dehors du royaume, donc c'est reconquérir un territoire qui nous a été volé par des envahisseurs. Donc déjà, c'est évidemment, je surinterprète, mais bon, il y a quand même un peu de ça derrière, hein, l'idée d'un territoire perdu et livré à des forces que l'on souhaite évidemment combattre et que l'on dénonce. Donc voilà, je parlais d'un imaginaire positif tout à l'heure, là pour le coup c'est un imaginaire très sombre, celui de la défaite et d'un nécessaire sursaut, quoi.
Ouais. Ils ont mis, sur la Del Kennedy, que je fréquente pas mal, ils ont mis un commissariat de police maintenant. Il y a toujours les mômes. Ouais. Si vous connaissez, moi je me garde souvent sur le côté pour prendre le métro. On voit les mômes qui font le guet sortant du collège. Même moi, j'arrive pas à comprendre ce qu'ils font. Enfin.
Mais c'est pour ça que c'est nous, enfin, je sais que ce qui nous a aussi marqué au début, c'était. Moi je viens pas de Rennes, je suis arrivé cette année. Et c'était pourquoi Morpa plus que justement Kennedy ou les gens.
On n'avait pas trop compris. Et le problème, c'est qu'il n'y a rien qui définit les critères de sélection des quartiers.
Une personne habitant dans le quartier de Maurepas depuis une dizaine d'années a accepté de témoigner. Elle a souhaité rester anonyme.
C'est pas facile, quoi, parce que c'est vrai que là, moi, depuis peu, je me dis, je vis aussi dans la crainte, quoi, parce que je sais que la tour où j'habite, juste à côté, je sais que les dealers sont là du matin au soir. La sécurité n'est pas, parce que j'ai appris bien bizarrement qu'il y avait des locataires qui avaient vendu leur propre badge, justement, puisqu'il y a des interphones depuis peu. Et donc, ce qui fait qu'on ne se sent plus chez soi, quoi. Les dealers sont là à faire le pied de couille toute la journée, à guetter les locataires, les allées venues des locataires. Et donc, du coup, et nous, en tant que locataires, c'est pareil, quoi. On est toujours sur le qui-vive en espérant ne pas se faire planter comme ça du jour au lendemain. Je me dis, ce serait bien si ça pouvait être le cas, mais bon, c'est vrai que c'est pas forcément dans le bon sens, quoi. Moi, je me dis, ce serait bien vraiment de pouvoir avoir des personnes vraiment qui viennent à notre rencontre. Et comme je vous dis, les locataires qui vont vers cette police, justement, on est quand même, nous, dans la crainte. Je dirais que quelque part, c'est sécurisant, mais je me dis, malgré les circonstances du quartier, je me dis, il y a beau y avoir beaucoup de rondes de gendarmes dans le coin, après que malgré tout, je suis moi-même dans une tour qui est très fréquentée par les problèmes de dealers. Et donc, quand je me dis, la sécurité s'est vraiment amplifiée, surtout ces derniers temps, quoi. Je me dis, c'est vrai que malgré les rondes, on a toujours peur d'un effet boomerang. Moi-même, je suis habitante du quartier depuis 10 ans. Après, qu'en 10 ans, je trouve que c'est vraiment dégradé. Et donc, du coup, les problèmes de dealers ne sont fait qu'en s'amplifier au fil des années. Et donc, c'est vrai qu'avec mon conjoint, comme je vous dis, je suis maman de 3 enfants en bas âge. Et il suffit justement qu'on soit, nous, par exemple, en contact avec les gendarmes, quoi. Si on les voit passer, il suffit qu'il y ait un des habitants, un des locataires qui parle avec les gendarmes. Si les dealers, ils nous voient parler avec, je me dis, la sécurité n'est plus, quoi. Je me dis, on n'ose même pas franchir le pas de la porte sans, justement, vivre dans la crainte au quotidien. Et donc, d'un côté, ça peut être sécurisant, mais c'est pas non plus à 100% qu'on a toujours peur d'un effet boomerang au vu de ce qui se passe dans le quartier.
Alors historiquement, l'opposition prévention-répression, elle est très codée en référence au clivage droite-gauche. La gauche est censée plutôt prévenir et moins réprimer, et la droite est censée plutôt réprimer et moins soucieuse de prévention. Bon, on sait qu'en réalité, il y a une très grande distance entre ces imaginaires-là et la réalité des politiques publiques qui, sur le terrain, sont souvent faites de façon très pragmatique. D'abord, sont faites aussi pas uniquement par l'État, mais aussi par des élus locaux, avec des professionnels qui ont aussi leur mot à dire. Bref, il y a souvent des connexions entre les imaginaires qu'on sollicite pour justifier une décision et la réalité des dispositifs empiriques. Donc avec Emmanuel Macron, on est encore une fois à la fois ni droite ni gauche, les deux en même temps, ni l'un ni l'autre, enfin voilà.
En fait, actuellement, il me semble, sans être un grand spécialiste de la question, mais au moins dans les registres linguistiques, sans vouloir piquer des trucs à Christian, on est dans quelque chose qui renvoie à la fois à une expérience qui est celle de la police de proximité. Bien sûr, comme elle a été stigmatisée, on ne veut surtout pas l'appeler comme ça, mais on est bien dans une politique de présence, de ronde, et en même temps un vocabulaire qui est celui quasi-sarkozyste de la reconquête. Voilà, moi je pense qu'effectivement on a quelque chose qui, du point de vue de la symbolique politique, joue sur le « en même temps ». Enfin, c'est vraiment très macronien. C'est-à-dire que c'est en même temps la reconquête, mais une police qui est presque la police de proximité. Enfin voilà, on joue un peu sur les deux versants en essayant de taper à gauche et à droite.
D'abord, ce n'est pas l'apanage de la droite ou de la gauche. Hein. La police de proximité, c'était Lionel Jospin. Donc je peux vous dire que ce n'est pas tout à fait la même chose. Et puis l'abandon de la police de proximité, c'est Nicolas Sarkozy. Donc vous voyez que ça n'a pas toujours les idées qu'on peut en avoir. Je pense que c'est un vocabulaire tout simplement républicain. Il n'est ni de droite ni de gauche. Une reconquête, c'est peut-être un peu fort, mais c'est aussi un marqueur. Ça permet de signifier. Et d'ailleurs, je préfère d'ailleurs le terme de police de sécurité du quotidien. Ça indique bien de quoi il s'agit. Donc non, c'est pas plus fort que ça. C'est aussi de dire, ben voilà, il y a l'effort de la République doit ne jamais être, ne pas oublier ses quartiers. Les difficultés que ces quartiers connaissent, et pour autant on voit bien hein, depuis une trentaine d'années les résultats sont pas à la hauteur, les attentes sont pas là, les difficultés s'accumulent et la rénovation urbaine, certes c'est des dizaines de millions d'euros que l'État investit et les collectivités dans ces quartiers pour la rénovation urbaine, c'est très bien, mais derrière les murs il y a toujours les personnes et les mêmes difficultés, et c'est ça le cœur du sujet. Donc c'est pas un sujet de droite ou de gauche, c'est pas qu'un sujet La République En Marche, c'est vraiment un sujet citoyen, et la terminologie après on l'interprète, mais très sincèrement je pense que l'idée c'est que les gens comprennent bien ce qu'on veut, et j'ai le sentiment qu'ils ont bien compris ce qu'on souhaitait faire à leur côté.
Ça peut vouloir signifier sur ce terrain-là, comme sur beaucoup d'autres dans la bouche d'Emmanuel Macron, la volonté de rompre avec les visions trop binaires et trop idéologiques de l'action publique pour faire prévaloir, ça c'est un peu la marque de fabrique du macronisme, une espèce de pragmatisme, alors qui sur le terrain de la sécurité et des politiques de lutte contre l'insécurité est à l'œuvre depuis 20 ans en réalité. Hein. Ça fait 20 ans que la gauche s'est convertie aux caméras de surveillance, que la droite fait de la prévention. Enfin, je veux dire, tous les élus locaux sur le terrain savent très bien que c'est une fausse alternative, qu'il faut en réalité faire les deux, qu'il faut faire intelligemment les deux, et qu'il faut être présent sur le terrain, ce qui suppose des moyens. Et, et donc c'est toujours un peu agaçant pour les élus locaux de voir comment ce débat se structure de façon très binaire et très idéologique, alors que... Bon, donc de ce point de vue-là, on pourrait considérer qu'Emmanuel Macron a un peu compris la nécessité de dépasser le clivage droite-gauche. Le problème, c'est qu'il le fait sur ce terrain-là, comme sur les autres terrains, au risque de, pour le coup, de donner l'impression de ne pas savoir où il va, de ne pas donner de repères précis aux gens. C'est bien de dire les cadres de pensée sont dépassés, mais... à condition de les remplacer par d'autres.
décision, elle n'est jamais seulement du gouvernement. Elle se construit, elle se co-construit avec les élus locaux. Les élus locaux concernés, aussi bien la maire de Rennes que la préfète de région, que la députée ou que tous ceux qui ont voulu s'investir et qui étaient partie prenante dans ce dossier. Donc voilà, ce n'est pas une décision imposée, bien au contraire. Elle est construite et elle émane du terrain. C'est un vrai besoin qui va permettre aussi de faire travailler encore plus ensemble la police municipale, la police nationale, en zone de police, sur le quartier de Maurepas. Il y a eu une redéfinition, il y a quelques mois, des circonscriptions de police aussi, entre la partie nord-est, la partie de Cesson, Pays de l'Ifré. Donc c'est une construction aussi qui permet à la fois de mieux répondre en fonction des effectifs actuels, aux besoins de la population, aux besoins d'intervention, aux besoins d'urgence aussi H24, hein, qui sont aussi des besoins de renfort d'effectifs dans les centres-villes la nuit, en fin de journée. Donc voilà, c'est une réorganisation qui est en cours de méthode. Je remercie évidemment le ministère de l'Intérieur, mais aussi les services de police, le directeur de la police nationale ici en Ille-et-Vilaine, pour être évidemment acteur de ces changements avec la préfète d'Ille-et-Vilaine et de région.
Bah après, il faudra voir les dispositifs sur le terrain, parce que là, on parle des imaginaires associés à la désignation des politiques en question. Alors, on sait que cet imaginaire, il est très important, mais enfin, il ne dit rien quand même de la façon dont, enfin, en tout cas, il dit peu de choses de la façon dont, concrètement et empiriquement, seront déployés des moyens, avec quelles instructions, voilà, et la clé du sujet, elle est quand même là. C'est-à-dire, quand Nicolas Sarkozy disait on n'attend pas des forces de police qu'elles jouent au foot avec les jeunes de banlieue, voilà, ça avait le mérite d'être clair, quoi. Donc là, faudra voir, parce que ce que vous dites suggère aussi qu'avec Emmanuel Macron, c'est toujours un balancement très, très habile, enfin, en tout cas dans un premier temps, qui a pu être perçu comme tel, et qui ne dit pas grand-chose de ce que seront la réalité des dispositifs.
Après, je me dis les élus, j'ai déjà évoqué une fois, j'ai demandé à Madame le maire une fois directement, je lui ai dit qu'est-ce que vous faites vous en tant que maire pour ce problème de dealer. Elle me dit je suis consciente qu'il y a ça, mais malheureusement je n'ai pas trouvé, elle n'a pas eu de réponse à me donner. Si j'ai l'impression, voilà, qu'est-ce qu'elle peut faire, je suis restée vraiment devant un mur quoi. Donc c'est pour ça, hier encore j'ai été voir le bailleur, on dépend d'Archipel ici, j'ai été le voir. Voilà, on leur dit ce qui se passe. Je lui dis, ouais, je soupçonne qu'il y a un squat sur mon palier. Voilà, il y a beaucoup d'allées et venues. On entend des bruits bizarres à je ne sais pas quelle heure le soir. Voilà, et comment ils nous disent, attendez que votre agent de proximité revienne de vacances, vous lui en parlerez lundi. Mais comme je dis, là aussi, c'est des points d'interrogation, quoi. On est en tant qu'habitants, c'est nous qui vivons dans cette crainte quotidienne. Et je me dis, quelque part, on fait quoi pour remédier à tout ça? Voilà, donc je me dis, l'entente. Ce serait bien, oui, qu'on puisse être entendu et puis, je vais pas le crier, je sais pas. C'est vrai qu'ils ont leur code, la ROA, dès qu'il y a les flics qui passent. Mais voilà, quoi. Comme je dis, nous, en tant qu'habitants, qui c'est qui nous entend et qui prend vraiment en compte cette parole? C'est ça, au jour d'aujourd'hui, c'est ça la question.
Opération de développement social des quartiers, c'est un plan État, région, collectivité. Il concerne en Bretagne 6 quartiers, 2 à Brest, 1 à Saint-Malo et Lorient et 2 à Rennes, dont celui de Maurepas.
Le quartier du Gros Chêne à Maurepas, c'est une dizaine de tours de 15 étages et 91 logements chacune, plus quelques immeubles totalisant 500 appartements. L'ensemble, édifié en 1960 selon les normes des constructions sociales de l'époque et pour faire face à la poussée démographique, apparaît aujourd'hui comme l'un des sites les plus sensibles de la ville de Rennes. Il a donc été choisi, comme 6 autres en Bretagne, pour bénéficier de l'opération de développement social des quartiers lancée l'an dernier sous forme de contrat de plan État-Région-Collectivité Locale. En 5 ans, 1400 logements vont y être rénovés. Les travaux viennent de commencer. Les pièces prioritaires sont les salles d'eau, où sont installées des baignoires notamment, et les cuisines, où l'on refait les éviers et les installations pour tous appareils ménagers.
Alors ce qui est très frappant dans ce que vous dites, c'est continuité quand même dans les termes, dans la stigmatisation des quartiers populaires. Hein. C'est-à-dire, dans tous les cas, on présuppose que les problèmes ne sont pas simplement liés au déclin de l'État-providence ou au retrait de l'État-providence, mais qui sont liés au fait qu'on a des populations à problème, on a de la mauvaise volonté républicaine, etc., etc.
Le Larousse définit le fait de stigmatiser de la manière suivante. Imprimer sur le corps de quelqu'un une marque indélébile à titre de châtiment. Jadis, on stigmatisait au fer rouge les condamnés.
Donc on mobilise, on sollicite un imaginaire qui est quand même un peu un imaginaire de lutte sur le mode, ce que disait par ailleurs Emmanuel Macron, regardez tous les moyens qu'on leur donne et ça n'a pas suffi, etc. Donc on oublie en faisant cela à quel point la question de la stigmatisation, de la reconnaissance, de l'identité des quartiers difficiles, etc. est une des causes absolument fondamentales des dérives que connaissent certains de ces quartiers. C'est-à-dire à partir du moment où les habitants, je pense toujours à des travaux qui avaient montré comment la labellisation en ZEP de certains quartiers pouvait être très ambivalente, parce que certes ça permettait de donner des moyens supplémentaires aux collèges, aux lycées, aux écoles, mais ça stigmatisait tellement la population que du coup ça créait des problèmes, peut-être pas autant que ça en résolvait, mais ça en créait aussi. Et accessoirement, ça avait pour effet de faire fuir ceux qui en avaient la possibilité. Et donc, on concentrait encore davantage par le label. Donc voilà, il faut être extrêmement sensible au poids des mots quand on a affaire à des populations qui sont par ailleurs en difficulté objective et qui forcément, de ce fait, sont très, très susceptibles sur la question des mots qu'on utilise pour parler d'eux, à juste titre.
Deuxième définition, dénoncer, critiquer publiquement quelqu'un ou un acte que l'on juge moralement condamnable ou répréhensible. On parle de stigmatiser les responsables de la mauvaise gestion économique.
La stigmatisation, elle existe déjà. Hein. Ça ne faut pas se leurrer, il faut être très réaliste par rapport à ça. Ces quartiers sont déjà stigmatisés. Dès qu'on parle de Maurepas, on n'en parle jamais en bon terme. On parle toujours des faits de délinquance qui s'y trouvent. On parle rarement des innovations, des expériences, des parcours de réussite. On n'en parle jamais de tout ça. Donc la stigmatisation, elle est là. Elle est là depuis très longtemps. Donc on ne va pas se cacher derrière le petit doigt. Ce n'est pas plus ça qui va stigmatiser ces quartiers.
En mai 2019, quand on tape dans l'un des moteurs de recherche les plus connus, Rennes, Maurepas, les trois premiers titres que l'on découvre sont les suivants. Témoignage. Rennes à Maurepas avec les dealers, on ne vit plus. Rennes au tribunal, les dealers de Maurepas racontent l'étendue du trafic de stupéfiants. Et en troisième titre, Rennes, le quartier de Maurepas aura sa police du quotidien.
C'est un petit peu ce que j'ai essayé de vous expliquer. Je pense qu'il faut non pas tomber dans les travers des discours sécuritaires de droite. Il faut prendre en compte l'attente de la population. Et quand les habitants vous expriment un sentiment d'insécurité, il faut le prendre très au sérieux. Voilà. Je vous disais, après, à tort ou à raison, est-ce que c'est une réalité ? Mais c'est leur réalité et c'est leur quotidien. Et je ne veux pas laisser ce sujet-là aux mains d'un parti politique ou de créer une tendance politique plutôt de droite ou d'autre chose. Je pense que c'est le discours de la République et que la République, elle est là pour protéger les habitants, quoi qu'il arrive. Donc c'est important de n'avoir aucun tabou sur ces sujets, d'en parler sans démagogie, avec beaucoup de clarté, et de prendre les mesures et la mesure des attentes qui s'expriment. Parce que si vous n'allez pas et si vous ne répondez pas à cette attente-là, c'est là que vous créez des fractures, c'est là que ces fractures s'accentuent et c'est là que l'incompréhension aussi, cette forme d'impuissance publique ressentie par les habitants, mais pas que dans les quartiers, l'impression que la République n'est pas là, l'impression qu'on ne s'occupe pas de nous, l'impression que nos problèmes ne concernent personne, s'accentue d'année en année. Donc il faut prendre cette question très au sérieux, répondre avec la mesure qu'il faut, sans démagogie, sans excès. Et encore une fois, on sait toujours comme dans les problèmes de santé publique, toutes ces questions-là, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de dialogue, de prévention, de compréhension de ce que font les uns et les autres, et puis d'action sur le terrain, de résultats qu'il faut aussi être en mesure de donner.
Comme je vous dis, c'est vraiment dégradé. C'est vrai que déjà MORPA est, comme je vous dis, déjà étiqueté. Rien qu'on parle de MORPA, il y a déjà cette étiquette de mauvaise réputation. Donc, comme je me dis, après, c'est vrai que je vois les écoles du quartier sont considérées comme ce qu'on appelle des REP. Donc forcément, ben, je me dis, après, c'est censé être des écoles dites prioritaires. Mais malheureusement, je me dis, bon, ben, ce serait bien justement que les gendarmes eux-mêmes puissent aller, je dirais, à la rencontre des habitants à la sortie des écoles, que ce soit pas forcément aux habitants de faire ces démarches, de devoir aller vers eux, justement, pour expliquer, il se passe ceci ou cela. Après, je pense que les gendarmes eux-mêmes sont conscients, mais ce serait bien que ce soit eux aussi qui fassent la démarche d'aller vers les habitants, à savoir si tout se passe bien. Ce que nous on ressent en tant qu'habitants réellement.
Très clairement, cette rhétorique-là, c'est une rhétorique anxiogène. Reconquête républicaine, c'est-à-dire que la République n'y est plus. Et qu'il faut reconquérir, quoi. C'est encore autre chose que Valls, quand il a pu parler de ghettoisation, etc., finalement, d'un apartheid à la française. Parce que l'apartheid, il y a aussi il y a une stigmatisation, non seulement de l'espace, mais de ceux qui créent l'apartheid, finalement. On pourrait dire, enfin, voilà, c'est l'apartheid, les principaux responsables n'étaient pas ceux qui étaient dans les townships. Ouais. Là, c'est autre chose, c'est-à-dire, si c'est pas conquis républicainement, si c'est un problème de sécurité, je peux même pas y aller, quoi. Si j'habite en... enfin, si on pousse jusqu'au bout l'image. Et donc, effectivement, là, mais Christian a dû vous en dire beaucoup plus que moi là, sur ce sujet-là, mais on est effectivement dans quelque chose de potentiellement stigmatisant, et même, je vois pas comment ça ne serait pas.
Un reportage réalisé par Juliette Seyer et Joseph Aubert.
Euh...